Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Le menu d'Afrique 7 jours n'a pas varié. D'abord l'Afropresse, l'Afrique dans la presse allemande et ce sera avec Philippe Poyan. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Comme toujours, deux thèmes seront développés dans l'Afropresse. Alors, quels sont ces deux thèmes ?
Eh bien, le premier concerne l'Éthiopie et l'Érythrée, dont les troupes se livrent régulièrement ces derniers mois des escarmouches. Ils provoquent des incidents de frontières répétés. Et puis l'autre thème concerne la RDC et plus précisément les ex-rebelles démobilisés qui vivent depuis des années dans d'anciens camps militaires délabrés en brousse, et cela dans de très mauvaises conditions.
L'Afropresse, c'est tout à l'heure, donc juste avant, Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains. Et ce soir, nous recevons la Camerounaise Julie Ohono.
J'ai plusieurs casquettes, mais qui se regroupent finalement en une. Je suis avocate, je suis journaliste et je suis également responsable du Bureau Afrique d'Internet sans frontières. Mais toutes ces casquettes-là, je les emploie à me battre pour que les nouveaux outils de communication que nous avons, Internet, grâce à Internet, puissent aider à faire avancer les questions de démocratie en Afrique, de développement économique et également, et peut-être surtout, de la place des femmes en politique et dans la société africaine dans son ensemble.
L'interview avec Julie Ohono est à retrouver donc dans la rubrique Blogosphère. Afrique 7 jours, c'est d'abord la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine de la semaine. Au Tchad, après la réélection contestée du président Idriss Déby Itno, le climat politique reste encore morose dans le pays. L'opposition continue de dénoncer la traque de ses militants et sympathisants. Elle dénonce notamment l'inertie de la communauté internationale qui est restée, selon elle, silencieuse, surtout après la victoire au forceps du président sortant du Tchad. C'est en tout cas ce que dénonce Saleh Kebzabo, le président de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau.
Il y a des situations dans certains pays africains, moins que celle-là, où vous entendez les Nations Unies, l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Allemagne se ruer pour parler, comme dans la situation du Congo, comme dans la situation du Burundi. Pourquoi est-ce que pour le Tchad, vous avez eu des élections truquées, plus que truquées, volées, détournées, avec un hold-up électoral connu, reconnu par toute la communauté internationale? Pourquoi il n'y a pas eu de réaction ?
Voilà, c'était à l'instant les plaintes de Saleh Kebzabo, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle d'avril 2016 au Tchad. Et les propos du chef de file de l'opposition tchadienne étaient recueillis à N'Djamena par Dariuston Blaise, notre correspondant sur place. Du Tchad, on atterrit en RDC. Vous le savez, l'ancien chef rebelle congolais, Jean-Pierre Bemba, a été condamné mardi à 18 ans de prison par la CPI, la Cour pénale internationale à La Haye. Condamnation pour des crimes commis par ces hommes en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Gilbert Grézengue est le procureur de la République en Centrafrique et il a collaboré étroitement à l'enquête et s'est même plusieurs fois rendu à La Haye dans le cadre de ce dossier. Jean-Pierre Bemba, on l'écoute.
La justice a triomphé et ça c'est un exemple typique de lutte contre l'impunité qui a été rendu à travers cette décision et c'est pour dire que une affaire en justice finira toujours par être jugée. On a vu que le procès Mbemba a pris un temps, mais au jour d'aujourd'hui nous pouvons nous réjouir de cette décision car nous avons tous présent à l'esprit les scènes que ces Bayamulengue ont eu à commettre sur le sol centrafricain.
L'actualité africaine, c'est aussi le Mali où un nouveau mouvement politico-armé vient de s'ajouter à la liste déjà longue des groupes rebelles qui opèrent dans le centre et le nord du pays. Il s'agit de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, en abrégé ANSIPRJ. De quoi inquiéter le politologue Michel Galli.
Ça correspond à d'anciennes structures politiques, hein, l'Empire Peul du Massina, qui sont un peu sous-jacentes à l'organisation de l'État. C'est ce qui se reforme, soit de manière politique, soit militaire. C'est un peu inquiétant quand même pour le gouvernement central de Bamako que ces mouvements se développent au centre du pays, d'autant que l'armée malienne est en voie de reconstruction. L'aide internationale, en même temps, diminue en quelque sorte l'autorité de l'État et l'autorité malienne.
Il est l'heure de retrouver notre invité, l'invité de la rubrique Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains.
Blogosphère.
Voilà Julie Ono, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez présidé cette année, je crois, le jury du concours organisé par la Deutsche Welle, des BOPS. Alors, ça a été une tâche assez ardue, hein, j'imagine.
Oui, j'étais la jurée pour la langue francophone et une tâche très ardue parce que nous avions la responsabilité de désigner parmi tous les projets d'activisme en ligne, d'expression politique en ligne ou non d'ailleurs, d'expression en ligne dans le monde francophone, choisir, bon, ceux qu'on considère comme être les meilleurs, mais c'est peut-être trop dire, ils sont tous, il y a de très, très excellent projet, mais il faut toujours faire un choix.
Quels ont été les critères de sélection de tous ces projets?
Alors, un des critères très importants, c'est évidemment les communautés qui existent derrière les projets qui ont été retenu notre attention. Est-ce que les projets dont on parle ne réunissent qu'une petite communauté ou une grande communauté? Bon, quand je dis communauté, ça peut être une communauté de lecteurs, ça peut être une communauté d'acteurs, de blogueurs. Je pense notamment à l'Association des blogueurs guinéens qui a été nominée dans la catégorie activisme politique, je crois. Ou bien encore communauté d'utilisateurs. Je pense à l'application Cross Dakar City qui avait été nominée dans la catégorie Tech for Good. C'est un des critères. Ensuite, évidemment, puisqu'il s'agit quand même d'un concours qui récompense l'action en ligne, l'expression en ligne. Évidemment, il faut que l'expression soit claire, accessible au plus grand nombre. Et que, comme nous sommes à une ère du numérique, les plateformes doivent être intéressantes aussi visuellement. Et puis, en termes de... Elles doivent être accessibles aussi sur mobile, parce que nous parlons, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique, qui compte pour beaucoup de contenus francophones aujourd'hui sur la toile. Il faut évidemment que ces contenus soient accessibles sur mobile, puisque c'est un marché où les connexions Internet se font essentiellement par ce canal-là, par le canal des téléphones portables.
Oui, parlant justement de connexion Internet, vous savez autant que moi, sinon plus, que l'accès à Internet pose problème dans la plupart de nos pays. Et vous faites, vous êtes également, je l'ai dit, vous l'avez rappelé, responsable Afrique d'Internet sans frontières.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous faites justement pour peut-être favoriser un accès assez équitable et plus facile?
Oui.
À Internet.
Alors, notre organisation est membre depuis 3 ans maintenant de l'Alliance pour un Internet moins cher, qui est une alliance qui regroupe des entreprises du secteur privé, des gouvernements du monde entier et également des organisations de la société civile comme la nôtre qui se mettent ensemble pour réfléchir à comment faire en sorte que le coût d'accès Internet diminue et ne représente que, par exemple, 5% du revenu d'un individu dans un pays donné. C'est loin d'être le cas dans beaucoup de pays africains, malheureusement, aujourd'hui, où les connexions, même si les prix ont baissé par la force des choses, ils restent quand même bien trop élevé pour la plupart des citoyens et des
utilisateurs. Surtout la fluidité, hein, les 3G, les 4G.
Et surtout, oui, ouais. Bien sûr, il y a le coût et puis il y a évidemment la qualité du réseau. Et la question de la qualité comment dire, concentre beaucoup de mécontentement aujourd'hui sur le continent. Je pense, il y a de nombreuses campagnes en ce moment. Je pense à ce groupe au Mali, Mali sans méga, qui se battent pour qu'ils puissent avoir au moins des mégas de connexion intéressants qui leur permettent d'envoyer des vidéos, d'envoyer des tweets. Je lisais par exemple le tweet d'une des membres de ce collectif sur Twitter qui disait que pour aller tweeter, elle était obligée d'aller sur son toit. Elle habite à Tombouctou. Ça m'a paru complètement surréaliste. Et puis évidemment, il y a mon pays, le Cameroun, où la question de la qualité fait encore débat. Donc il y a beaucoup de... Nous, à Internet sans frontières, nous essayons d'alerter les pouvoirs publics, les entreprises du secteur privé, en leur disant le plus grand nombre de connexions, c'est-à-dire le plus il y aura de monde en ligne, plus ça créera de la richesse, puisque de plus en plus de personnes auront accès à ce réservoir de savoir qu'est Internet aujourd'hui, qu'est le web en particulier, et ce réservoir de savoir qui permet ensuite de libérer la créativité de ceux qui l'utilisent. Et en libérant la créativité, on crée des entreprises, par exemple, on crée le prochain Facebook, je n'en sais rien, j'espère, il sera africain. Donc voilà, nous battons pour ça. Et nous nous battons aussi, malheureusement en ce moment, contre...
Les coupures d'Internet, j'imagine.
Voilà, c'est ça.
Dans des pays comme le Congo ou le Tchad, on a assisté à des périodes préélectorales ou même post-électorales à des coupures d'Internet. Alors, qu'est-ce que vous avez mené comme action, justement, dans les deux cas que j'ai cités, le Congo et le Tchad, par exemple?
Alors, pour le Tchad, nous avons tenté d'entrer en contact avec les opérateurs de téléphonie mobile à l'époque où il y avait eu la coupure de Facebook, au mois de février, je crois que ça avait commencé.
Au moment de l'affaire de la jeune
lycéenne Zoura. Au moment des manifestations sur l'affaire de la jeune fille Zoura. Et malheureusement, ces opérateurs n'ont pas souhaité répondre à nos questions. On voulait savoir pourquoi est-ce qu'ils acceptent de se plier à... des ordres de violer la liberté de communiquer, la liberté de s'exprimer de millions de citoyens tchadiens.
Mais cette censure a été rééditée la veille de la présidentielle du 10 avril, pendant au moins quelques jours. Est-ce que vous avez pris attache avec les autorités ou les responsables des opérateurs de téléphonie mobile?
Nous avons tenté d'entrer en contact avec les autorités. Bon, je dois vous avouer que les numéros qui figurent sur certains sites internet officiels tchadiens ne sont peut-être pas actualisés. Voilà, donc nous n'avons pas eu de retour non plus de ce biais-là. Mais surtout, ce qui est important de retenir, c'est que Internet sans frontières a rejoint aujourd'hui une campagne internationale qui s'appelle Keep It On. C'est un hashtag sur Twitter, Keep It On, qui regroupe des organisations de société civile qui veulent absolument faire en sorte que soit reconnu comme droit fondamental le droit à un Internet libre. Voilà. Un Internet sur lequel on peut s'exprimer librement, un Internet qui n'est pas coupé. Et que, en cas de coupure, de la même manière que l'on sanctionne les États qui portent atteinte aux droits fondamentaux de leurs citoyens, que l'on puisse également mettre à l'index, au banc de la communauté internationale, ces États qui coupent un outil aussi important qu'est Internet aujourd'hui.
Et c'est d'autant plus... Est-ce que vous avez une liste des pays prédateurs un peu d'Internet?
Alors, nous ne l'avons pas encore dressé, mais malheureusement, l'actualité s'en charge pour nous. On sait que, par exemple, c'est pas en Afrique, mais on sait que l'Irak est familier de la pratique. Vous citiez tout à l'heure deux pays africains, le Tchad, le Congo-Brazzaville. On peut aussi citer, malheureusement, le cas de la RDC, puisqu'il y a un an, pendant les grosses manifestations contre le troisième mandat de l'actuel président et la modification constitutionnelle, l'Internet avait été coupé. Et surtout, ce que nous essayons de dire, c'est que c'est absolument contre-productif d'un point de vue économique, puisque si vous coupez Internet, vous coupez les échanges économiques, puisqu'on ne vit pas en autarcie aujourd'hui quand on est un État qui participe au commerce mondial. Et surtout, il y a d'autres moyens, en fait. C'est complètement, absolument contre-productif et ça vous fait de la mauvaise publicité. Or, je pense qu'aucun État ne peut se permettre d'avoir de mauvaise publicité en ces terres où l'information va à la vitesse de la lumière.
Oui. Est-ce que Internet sans frontières ne pense pas à des moyens pour contourner la censure? J'ai vu que dans des pays où Internet a été coupé, des jeunes téléchargeaient des applications pour pouvoir contourner cette censure. Est-ce que vous ne vous appropriez pas cette technique à peut-être vulgariser ce genre d'outils, de plateformes, peut-être pour contourner la censure?
Oui, c'est une très très bonne question. Internet sans frontières, nous faisons depuis de nombreuses années maintenant, des formations à destination d'activistes, de journalistes aussi, de défenseurs de droits de l'homme, sur l'utilisation d'outils qui leur permettent non seulement de protéger leur vie privée, de protéger leurs sources quand ils vont en ligne, et aussi, évidemment, en cas de coupure Internet, de pouvoir continuer à envoyer des informations et à informer le reste du monde sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, d'où je renchéris encore une fois, c'est absolument contre-productif de couper Internet. Au contraire, ça vous attire. Il y a ce qu'on appelle l'effet Streisand. C'est un effet très connu sur Internet qui veut que, quand vous voulez chercher absolument à contenir quelque chose, finalement, la toile va se charger de donner encore plus d'importance à un phénomène que vous cherchez à contenir au départ. Et je pense que c'est ce qui se passe quand vous faites une coupure d'Internet. Au lieu de contenir l'information que vous vouliez, finalement, ça va attirer d'autant plus d'attention du monde entier sur ce qui se passe dans votre pays. Et ça va faire exactement l'inverse de ce que vous vouliez, c'est-à-dire qu'on va parler de votre pays, mais pas en des très bons termes, en termes négatifs.
Oui, mais certaines autorités des pays qui coupent à chaque fois Internet justifient un peu leurs actions par le fait qu'ils n'arrivent pas à contrôler tout ce qui s'y passe. Par exemple, le cas de la jeune Zoura, on a vu des photos de la jeune fille nue. Ça, c'est quand même les effets pervers, non, de nouvelles technologies de l'information, de la communication.
Alors évidemment, il faut protéger, la vie privée, et ça aussi nous battons pour ça. Mais pour ça, il y a des procédures, il y a des juges. Les réseaux sociaux, par exemple, Facebook, ils ont des termes de service, comme ils appellent eux-mêmes, termes d'utilisation, qui sont très clairs sur les images à caractère pornographique et qui vont même parfois jusqu'à l'outrance, puisque vous êtes certainement au courant de ce débat-là sur faut-il censurer les seins de femmes sur Facebook ou non. Donc, il y a des procédures qui existent déjà, que ces réseaux sociaux mettent en place. Et surtout, nous prônons le rôle du gardien des libertés qui est le juge judiciaire dans beaucoup de nos États. Ce sont des systèmes de droit civil. Il faut que c'est au juge de décider qu'est-ce qui est attentatoire ou pas. Ce n'est pas à celui qui est jugé parti, c'est-à-dire l'État. Ce n'est pas à lui le pouvoir exécutif, ce n'est pas à lui de décider. Donc oui, il faut protéger la vie privée de tout le monde. Il faut protéger les gens contre la cybercriminalité, comme ça semble être une grosse préoccupation en ce moment sur le continent. Mais ça doit se faire dans des règles de proportionnalité, des règles de nécessité, des règles de légalité. Et pour que ces règles soient respectées, il faut absolument qu'il y ait un juge qui supervise les décisions de censure et de blocage de contenu sur Internet. Et encore une fois, les réseaux sociaux sur lesquels ce type d'image circule ont des termes d'utilisation très clairs aussi, qui ne tolèrent pas que soient portées des atteintes à la vie privée. Bon, ils ont aussi leurs procédures qui sont discutables, mais encore une fois, ce qui est central pour nous, c'est qu'il y ait une autorité judiciaire qui soit chargé de dire ce qui est attentatoire ou pas à la liberté d'un autre. Voilà.
Oui, et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez résumer un peu en quoi consistent les actions d'Internet sans frontières pour qu'on puisse avoir une idée claire sur ce que vous faites?
Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, nous faisons des formations à destination d'activistes, mais aussi en ce moment, nous faisons des formations à des avocats du barreau de Paris pour leur apprendre à protéger leur vie privée, leurs échanges, à protéger le secret professionnel, puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'en France, en ce moment, il y a des dispositions législatives qui permettent une surveillance de masse indiscriminée de tous les contenus qui circulent sur le réseau Internet dans l'espace territorial français, mais aussi nous faisons beaucoup de plaidoyer pour la baisse des coûts d'Internet, plaidoyer contre les coupures d'Internet, comme je disais tout à l'heure. Nous faisons aussi des projets qui visent à lutter contre la fracture numérique, mais genrée cette fois-ci, c'est-à-dire faire en sorte que aussi bien les hommes que les femmes tirent profit de manière égale d'Internet, de l'outil d'Internet, donc que les femmes puissent aussi y accéder. Et nous faisons également, bien sûr, du soutien à tous ces acteurs qui promeuvent les libertés, aussi bien dans l'espace physique que dans le cyberespace.
Oui, une toute dernière question. Est-ce que le web activisme a de l'avenir sur le continent?
Ah oui, je crois qu'il y aura, malheureusement pour certains et heureusement pour la majorité, de plus en plus d'individus, de citoyens qui vont utiliser une plateforme qui leur donnera une parole qui leur a parfois été confisquée depuis des années. Voilà. Je pense que les jeunes générations, celles qui aident à construire le continent de demain, sont plus que jamais demandeuses de cette parole-là et de ce dialogue avec leurs autorités. Je pense à des organisations comme Ablogi, je l'ai cité tout à l'heure, l'association des blogueurs guinéens, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des associations au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire.
Au
Burkina Faso, merci. Tous ces groupes de jeunes citoyens qui ont compris que finalement la chose publique n'appartenait pas à une minorité, mais la chose publique appartient à tous, y compris à eux, jeunes citoyens. Voilà. Et la démocratisation des outils numériques va, comment dire, aider à propulser encore plus cet activisme en ligne africain. Et je pense que nous pouvons en attendre des innovations, des nouvelles façons d'utiliser Internet qui n'ont pas encore été testées ailleurs et qui vont certainement être inventées sur le continent africain. Voilà, c'est ce que je crois.
D'accord. Bien, merci beaucoup, hein, Julie Onon, d'être passée.
Merci.
Et à très bientôt sur les antennes de la Deutsche Welle. Bonsoir Philippe Oyan.
Bonsoir.
Et nous ouvrons l'Afro-Presse par les ex-rebelles démobilisés et qui vivent depuis plusieurs années dans d'anciens camps militaires délabrés, en brousse et dans de très mauvaises conditions. Et là, nous sommes bien en RDC.
Effectivement. Dit Tantz, la TAT se penche sur le sort de ces milliers d'ex-miliciens ou anciens combattants démobilisés des groupes armés en République démocratique du Congo. Ces dernières années, depuis qu'ils ont déposé les armes, ils vivent de manière précaire, cantonnés au fin fond de la jungle, dans des camps du programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. La semaine dernière encore, des heurts mortels sont survenus à Kamina, une ancienne caserne du sud-est de la RDC, lorsque des ex-rebelles ont manifesté contre leurs conditions de vie. Selon la Fondation Bill Clinton pour la paix, une ONG à Kinshasa, 6 ex-rebelles et 3 soldats auraient été tués. Les manifestants, eux, parlent de 27 morts. Et récemment encore, une autre mutinerie avait eu lieu dans une autre base militaire accueillant le DDR, cette fois à Kitona, dans l'extrême ouest du pays. Le quotidien berlinois rapporte les propos de Bertrand Bizimois, le président de l'ex-rébellion congolaise du M23, le mouvement du 23 mars, qui déplore de graves incidents mortels à répétition, l'incapacité du gouvernement à faire aboutir son propre programme et les très mauvaises conditions de vie entretenues dans les centres de démobilisation. La plupart des ex-miliciens, frustrés, vivotent inactifs dans ces camps. Ils ont terminé souvent leur formation et souffrent d'être si éloignés de leurs femmes et de leurs enfants dans de lointaines provinces. Depuis longtemps déjà, les organisations internationales des droits de l'homme critiquent le gouvernement du Congo pour la manière dont il traite les ex-rebelles démobilisés. Selon les plans de la mission onusienne au Congo et du gouvernement de Kinshasa, plus de 20 000 combattants doivent être resocialisés, reclassés au cours des prochaines années grâce au programme de démobilisation financé par la Banque mondiale. Les ex-combattants doivent être formés à des métiers tels que mécanicien, menuisier ou maçon. Mais le processus piétine et selon la TAT, la plupart des hommes ainsi casernés ressentent le programme de démobilisation davantage comme un programme de punition que comme un programme d'intégration sociale.
Et puis Philippe, l'autre sujet que vous avez retenu concerne des incidents de frontières, hein, des incidents répétés ces dernières semaines entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
C'est un conflit qui couve, un conflit larvé qui n'attire guère l'attention au niveau de la diplomatie internationale, souligne la Süddeutsche Zeitung. D'autres crises dans la région, le terrorisme islamiste en Somalie par exemple, paraissant plus grave. Ces jours-ci pourtant, les différents frontaliers entre l'Érythrée et l'Éthiopie menacent, encore une fois, de s'amplifier dangereusement. Le gouvernement érythréen a lancé un appel à l'aide aux Nations Unies. Le puissant voisin du Sud préparerait actuellement une offensive militaire d'envergure et se préparerait même à une véritable guerre. Il semble que l'Éthiopie ne rejette pas un tel scénario, relève le quotidien de Munich. La semaine dernière, le gouvernement d'Addis Abeba avait lancé un avertissement au président de l'Érythrée, Isaias Afewerki. Nous espérons que le président érythréen ne va pas répéter l'erreur de nous entraîner dans une guerre ouverte, a-t-on ainsi pu lire dans un communiqué après des combats avec artillerie et blindés à la frontière entre les deux pays près de la ville de Tserona, les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir provoqué ces hostilités. L'Érythrée, de son côté, a affirmé avoir tué plus de 200 soldats éthiopiens et en avoir blessé 300 autres dans ces combats à Tserona, sans faire état du nombre de victimes dans ses rangs. Et de son côté, l'Éthiopie n'a fourni aucun bilan, évoquant seulement un nombre important de victimes des deux côtés, mais plus dans le camp érythréen. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique, qui ont déjà connu un conflit frontalier meurtrier de 1998 à 2000, s'accusent mutuellement depuis longtemps d'attaques et de soutien à des rebelles dans chaque pays. En fait, depuis les accords de paix signés en 2000, les deux pays demeurent ennemis et leurs forces surveillent de près le long de la frontière lourdement fortifiée. Selon la Süddeutsche Zeitung, le conflit frontalier offre l'occasion aux deux gouvernements de détourner l'attention d'autres problèmes pressants dans les domaines économiques, agricoles ou sociaux, par exemple. Une vieille tactique connue, mais des plus dangereuses pour les deux voisins de la Corne de l'Afrique, conclut le quotidien de Munich.
Merci Philippe Poyan pour l'Afro-Presse et je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine.
La même chose à tous nos auditeurs et à vous-même.
Et c'est ici que s'achève Afrique 7 jours de ce dimanche 26 juin 2016. C'était Eric Topona et je vous quitte sur ce proverbe bamiliké, un peuple vivant dans l'ouest du Cameroun. Le proverbe bamiliké dit ceci: si la panthère savait combien on la craint, elle ferait beaucoup plus de mal. Bonne fin de semaine encore une fois et à la semaine prochaine.
Mwaya deme, 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 mwaya deme